Radio Kapi.
En ouverture de ce journal, c'est cette déclaration de Paul Kagame, président rwandais, affirmant que son pays ne va plus continuer à recevoir des réfugiés congolais sur son territoire. Dans ce journal, réaction du ministre congolais de la Communication, Patrick Muyaya. Pour lui, Kagame démontre que les droits humains ne valent rien. C'est aussi un sujet pour lequel ça discute et ça s'impute au sein de l'opinion avec beaucoup d'interrogations si effectivement il y a détournement des fonds ou pas. Les travaux de construction des universités officielles de Mbujima et de Kananga. Dans ce journal, les assurances du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Le président du conseil d'administration de l'OVD, Office des voiries et drainage, Martin Chipama, intervient en fin de ce journal comme invité. Avec lui, nous parlons des conditions d'avancement des divers projets dans le Grand Kassai. En gardant la fréquence de Radio Okapi, vous nous confirmez votre indéfectible désir à toujours vous informer sur la fréquence de la paix. Fidèles auditeurs, bienvenue et bonjour à toutes et à tous. Polémique autour des propos du président rwandais sur ses affirmations selon lesquelles que le Rwanda ne pourra plus accueillir des réfugiés congolais sur son sol. Le ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement, juge inhumain le fait que les réfugiés congolais soient instrumentalisés par le président rwandais pour des raisons politiques. Patrick Muyaya l'a dit hier mercredi au cours d'un briefing de presse conjoint avec le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Selon lui, le président Paul Kagame a démontré que les droits humains ne valent rien. On écoute Patrick Muyaya dans cet extrait proposé par Alain Hirung.
Il y a plus de réfugiés rwandais au Congo que de réfugiés congolais au Rwanda. Et cette question a fait l'objet des discussions entre les deux gouvernements. Les deux chefs d'État étaient là à Luanda en juillet dernier. Si vous regardez la feuille de route, il est prévu que l'on traite cette question de réfugiés dans une tripartite avec le Haut Commissariat pour les réfugiés. Je peux vous donner des chiffres à titre indicatif parce que du côté congolais, ce travail a été fait. Les chiffres au 30 novembre 2022 disent qu'il y a à peu près 77 000 réfugiés congolais au Rwanda qui sont du fait des agissements du gouvernement rwandais. Parce que, souvenez-vous qu'en mai 2021, lors de l'éruption, les Congolais qui s'étaient réfugiés de l'autre côté n'ont pas voulu rester un seul jour de plus. Et ils sont tous rentrés. Souvenez-vous, c'est récent. Et donc, il y a ces réfugiés qui sont là-bas, qui malheureusement sont instrumentalisés pour des fins politiques quelquefois. C'est inhumain parce que dans l'attitude dont fait montre le président Kagame, même si j'ai vu qu'il y a eu une tentative de recul sur le sujet, mais il a dévoilé ses vraies intentions, ça veut dire que pour lui, les droits humains n'ont aucune valeur.
Face aux diverses réactions dans l'opinion internationale, le pouvoir de Kigali a tenté de nuancer les propos de son président en les relativisant. Dans le Nord Kivu, le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés, a débuté hier mardi le premier transfert des milliers de personnes déplacées internes des sites spontanés de Kanyaruchinya, Munigi, Buhombo et Kibati vers le site officiel de Bushagara dans le territoire de Nyiragongo. 3000 abris d'urgence sont construits en faveur des déplacés les plus vulnérables. Le gouvernement provincial salue cette action des humanitaires en faveur des déplacés exposés à beaucoup de risques de protection. Pour en parler, retrouvons dans le Nord Kivu Denise Loukesso.
Le HCR contribue avec d'autres acteurs humanitaires à la construction et à l'aménagement du site de Bushagara. Vaste de 33 hectares, 2000 abris déjà construits sur les 3000 prévus, un réservoir d'eau de plus de 70 mètres cubes installé et plusieurs centaines de latrines et cuisines construites et mises à la disposition des déplacés dans ce site qui va héberger 15 000 personnes. Le transfert qui a débuté mardi va s'étendre jusqu'au 21 janvier prochain, indique le chef de la sous-délégation du HCR à Goma. Il concerne principalement les personnes déplacées les plus vulnérables. Le site de Bushagara permet de désengorger les écoles et les sites spontanés le long de la route où les familles sont exposées à plusieurs risques, dont des accidents et des conditions de vie déplorables. Plus de 70 policiers formés par les HCR sont commis pour la sécurité du site. Pour plus de durabilité, le HCR appelle d'urgence les belligérants à cesser les hostilités et à ramener la paix dans les zones de conflit, a conclu Abdoulaye Barry, chef de la sous-délégation du HCR à Goma. Goma, Denise Loukesso, Radio Kapi.
Pendant ce temps, sous les lignes de front, des violents affrontements ont été signalés depuis la nuit de mardi à hier mercredi matin entre les rebelles du M23 et une milice d'autodéfense à Kisimba dans la partie nord du groupement de Rusayo. C'est à la limite entre les territoires de Nyiragongo et Masisi dans le fin fond du parc national de Virunga. Les sources dans la zone affirment que plusieurs personnes à la recherche des charbons de bois dans la zone auraient été prises en étau et tuées par des tirs croisés des belligérants. Sur le front est et ouest, un calme apparent s'observe à Katwiguru, à une dizaine de kilomètres de la cité de Kiwanja, après les accrochages de mardi entre les rebelles et la coalition des deux milices locales du collectif des mouvements pour le changement et les Maïma Nyatura. Nous restons dans la partie est de la RDC. Plus de 6 mois après l'adhésion de la RDC à l'EAC, de nombreux Congolais s'inquiètent de ne pas bénéficier des avantages relatifs à l'appartenance à cette structure. Parmi les avantages figurent notamment la suppression du visa entre la RDC et les autres pays membres. Il y a quelques jours, le président ougandais Yoweri Museveni, lors d'une cérémonie d'inauguration à la frontière avec la RDC, déclarait que les ressortissants de son pays et ceux de la RDC ne paieront plus de visa pour circuler entre les deux pays. Cependant, cette mesure n'est pas encore d'application sur le terrain. Reportage de Sadiki Aboubakar.
Des nombreux Congolais qui voyagent dans les pays de l'espace de l'EAC déplorent de continuer à payer le visa dans la région, alors qu'en étant membre de cette structure régionale, le paiement du visa devait être supprimé entre la RDC et tous les autres pays du même espace. Cette situation inquiète plus d'un Congolais et suscite des questionnements. Une Congolaise qui a voyagé en Ouganda récemment exprime sa désolation.
Arrivant à l'aéroport d'Entebbe, il y a un écran qui affiche les pays de la zone de l'EAC et la République démocratique du Congo ne faisait pas partie. D'office, on devrait aller sur l'autre queue pour pouvoir payer les 700 dollars. Alors on se pose la question, qu'en est-il de la libre circulation de la population?
Malgré toutes les démarches, nous n'avons, hélas, pas obtenu la réaction des officiels congolais à cette préoccupation. Cependant, des sources de la Direction générale des migrations qui ont reculé l'anonymat confirment le fait. Notre source indique qu'il existe de nombreux préalables avant la mise en application de cette mesure. C'est notamment le changement du système informatique, l'adoption d'un document commun en remplacement du visa, etc. Bref, les Congolais et ressortissants d'autres pays membres de l'EAC qui entrent en RDC doivent prendre leur mal en patience en attendant la résolution de cette préoccupation. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Deuxième titre de cette édition. Les travaux de construction des universités de Mbujima et de Kananga évoluent très bien. Déclaration du ministre de l'Enseignement supérieur universitaire hier mercredi au cours du briefing de presse conjoint avec le ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement. Muindo Zangi a expliqué que les retards enregistrés dans la construction de ces infrastructures est lié simplement aux difficultés d'approvisionnement en matériel. Il a aussi rejeté toutes les allégations des détournements qui sont évoquées contre lui dans ce dossier. On écoute Muindo Zangi dans ses propos recueillis par Alain Hirung.
Beaucoup de gens sont curieux de savoir qu'est-ce qui se passe à Mbujima. Ils ont dit que voilà, les travaux qui ont commencé là-bas, ils n'ont jamais commencé. Mais aujourd'hui, la situation c'est que les travaux ont bel et bien commencé. Les fondations sont à voie d'être terminées. Et vous avez dit pourquoi les fondations alors que vous avez commencé au même moment avec Kinshasa et que Mbujima, on voit que ça n'avance pas très vite. La raison, elle est simple. Les conditions d'approvisionnement à Mbujima ne sont pas les mêmes que les conditions d'approvisionnement ici à Kinshasa. Comme vous pouvez bien le voir, le matériel de construction certainement n'a pas été livré dans les délais que nous connaissons. Nous connaissons tous ce qui se passe à Mbujima. C'est peut-être que pour cette raison, beaucoup d'autres travaux vont être aussi impactés. Vous savez vous-même que la route n'est pas encore et que le train qui fait monnaie du tout n'est pas tellement régulier, ce qui fait qu'effectivement, à cause des retards d'approvisionnement, on a des problèmes pour le rythme d'avancement des travaux à Mbujima.
Processus électoral à Kinshasa, l'opération se poursuit. Pauline Massirika nous amène visiter quelques centres d'enrôlement de la commune de Bumbu. Comme dans beaucoup d'autres endroits, les requérants se plaignent de la lenteur dans les opérations du nombre réduit des machines dans les centres, ce qui les oblige à passer plusieurs heures pour avoir leur carte d'électeur. Reportage.
Dans le centre où nous sommes passés, vers 9h du matin, nous avons trouvé une vingtaine de personnes dans la cour, attendant leur tour pour se faire enrôler. Plusieurs se plaignent. C'est le cas au centre situé à la paroisse Christ Sauveur, sous l'avenue Soyo. Dans le bureau, 10 personnes avaient déjà entamé le processus d'enrôlement. Le requérant explique.
Bon, ils allaient un peu bien. Ici, c'est un peu bien. Pour moi, on devait favoriser les femmes enceintes et les femmes qui ont des bébés. C'est comme là depuis 6 heures, mais c'est à 11 heures que je suis servie. J'ai pas pu mettre mon nom sur la liste, vu que j'ai un bébé. Il y a aussi des gens qui ont fait 2 ou 3 jours, mais jusque-là, ils ne sont pas encore servis.
Pour M. Baudouin, un agent de la CENI dans ce bureau, tout se déroule bien.
La situation évolue très bien. Nous suivons l'ordre d'arrivée. Quand les requérants viennent, on les envoie chez les pays, on les donne les fiches et puis ils passent chez les OPS. Et après, ils viennent chez moi comme PCI, j'ai laminé leur carte et puis ils sortent calmement. La situation est calme, nous sommes très bien ici.
À l'école Kabakani sur l'avenue Luamba, le requérant se plaigne aussi. Ils affirment que le nombre de machines est insuffisant. Il en faudrait plus pour accélérer le rythme du travail.
Autre nouvelle d'actualité. Comme vous le savez, c'est depuis le mardi 10 janvier que le gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej, a déposé sa démission. Du coup, il se pose des questions sur les conséquences de cet acte sur la gestion de la province. D'après Jeff Moudimbi, professeur à l'UNILU et analyste politique, il revient à la Commission électorale nationale indépendante d'organiser les élections pour doter le Lualaba de nouvelles autorités capables de poser les actes susceptibles d'engager la province. On écoute le professeur Jeff Moudimbi au micro de Jean Gandou.
Sur le plan légal, c'est tout le gouvernement qui est réputé démissionnaire. Au nom du principe de la continuité des services publics, on reconnaît la possibilité au vice-gouverneur de continuer à assurer la gestion des affaires courantes. Et pendant cette période, le vice-gouverneur ne peut pas prendre des actes qui engagent cette administration. Donc il s'agit tout simplement ici d'expédier les affaires courantes. C'est ainsi que la loi prévoit que dans les 15 jours, il faudrait que la CENI arrive à organiser les élections. Parce qu'une province ne peut pas rester longtemps comme ça sans gouvernement. Alors, c'est pourquoi nous avons même interpellé la commission électorale de faire un effort pour que, en dehors des 15 jours, que les élections soient organisées. Faute de quoi, je pense qu'il y aura un problème sérieux de fonctionnement de la province parce qu'elle n'aura pas un gouvernement capable réellement de poser des actes qui engagent l'administration provinciale.
Parlons à présent de cette actualité avec la MONUSCO qui, à travers sa section des affaires civiles, a doté le ministère provincial des Transports d'un équipement informatique ce mercredi pour l'identification des motocyclistes de la province du Sud-Kivu. Cet appareil qui va faciliter la production des badges a été remis au ministre provincial en charge du transport par la chef de bureau de la MONUSCO Sud-Kivu. Jean Kassami pour les détails.
Cécilia Piazza a posé ses gestes lors de la cérémonie de clôture de la formation du noyau de sensibilisation des motocyclistes sur l'alerte précoce et outils de protection des civils en vue d'améliorer la situation sécuritaire dans la ville de Bukavu et ses environs.
L'un des problèmes qui a été identifié par les participants est que certains criminels opèrent dans la ville en se faisant passer pour des conducteurs de mototaxi. L'une des solutions retenues étant d'assurer l'identification par le ministère des Transports de tous les conducteurs de mototaxi. Les participants ont ainsi sollicité l'intervention de la MONUSCO pour l'acquisition de matériel et équipement informatique.
Le premier à obtenir sa carte d'identification grâce à la machine de la MONUSCO, Chiruza Boss, de la synergie des associations des motocyclistes du Sud Kivu.
La carte, c'est pour nous identifier comme des motards. La carte peut aussi nous aider parce que nous avons un projet pour intégrer aussi les transports par moto dans l'East Africa Community.
Le ministre provincial des Transports, très flatté par cet accompagnement de la MONUSCO, demande au noyau de répercuter la formation au-delà du chef-lieu de la province. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Actualité internationale.
L'opposition béninoise fait son retour au Parlement en remportant 28 sièges sur 109 aux législatives, une première sous le président Patrice Talon après 4 ans d'absence selon les résultats provisoires donnés mercredi par la Commission électorale nationale autonome. D'après la Sénat, le principal parti d'opposition, les démocrates, a remporté 28 sièges tandis que l'Union progressiste pour les renouveaux et le bloc républicain, parti de la mouvance présidentielle, ont respectivement obtenu 53 et 28 sièges. Les résultats définitifs des législatives organisées dimanche sont attendus vendredi. Lors de sa visite en Éthiopie, le nouveau ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, a esquivé un nouvel appel de l'Union africaine en faveur d'une représentation permanente au Conseil de sécurité des Nations unies. S'exprimant à l'occasion de l'inauguration du siège du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies construit par la Chine à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, M. Qin a mis l'accent sur le partenariat entre la Chine et l'Afrique en matière de sécurité et de développement économique. L'invité. Dans le Kasaï oriental, clôture hier mercredi en Bujimaï de la mission du président du conseil d'administration de l'office des voiries et drainage OVD. Au cours de son séjour de plus d'une semaine dans l'espace Grand Kasaï, Martin Chipama a visité plusieurs ouvrages exécutés par son entreprise ainsi que d'autres sociétés de construction qui ont gagné le marché. Dans cette interview accordée à Radio Okapi, Martin Chipama parle de l'état des lieux des ouvrages visités ainsi que des difficultés enregistrées dans l'exécution des travaux de réhabilitation et modernisation de la voirie urbaine en Mbujimayi, à Kananga ainsi qu'à Mweneditu dans la province de Lomami. Martin Chipama, PCA de l'OVD, s'entretient avec Esther Dalla.
Bonjour, Monsieur Martin Chipama. Vous vous retrouvez en Mbujimayi, au Kasaï oriental. Quel est le but de votre mission?
Merci beaucoup. Je me retrouve au Kasaï, pas dire au Kasaï oriental tout simplement. Je suis au Grand Kasaï. Depuis le 3, j'ai participé au lancement des travaux de la route nationale numéro 1, Mbujimayi Mweneditu. Je suis là parce que dans le cadre de prendre possession du fonctionnement de l'OVD, j'ai voulu commencer par le Grand Kasaï pour voir qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui va être fait et qui fait quoi. C'est ainsi que j'ai commencé par Mbujimayi. Je suis parti par route sur Kananga. On a visité les travaux qui sont exécutés en régie par OVD et par certaines autres entreprises. Et de là, je suis revenu directement, je suis allé toujours par route à Lomami. Je suis arrêté à Mweneditu où j'ai rencontré le directeur provincial et le chef de brigade de Mweneditu. Compte tenu du très mauvais état de route, je n'ai pas pu faire Mweneditu-Kabinda.
Nous savons que l'OVD a la charge de moderniser la voirie urbaine de Mbujimayi dans le cadre du projet Tchibéjibou. C'est de 25 km de route et avec Safinex, c'est 35 km, donc au total 60 km de route. Quel est l'état des lieux où vous faites des travaux en exécution sur la ville de
Mbujimayi? C'est, comme on dit, mi-figue, mi-raisin. Un peu bien, un peu pas très bien. Côté Safrimex, il n'y a rien à dire. Safrimex a son chantier et ses chantiers en main. Il a l'équipement sur place, le matériau sur place. Nous n'avons pas eu de plainte du côté de Safrimex. Du côté CREC 7, là, il y a des problèmes. Hier, par exemple, on est allé les voir pour encore parler avec oh non. Et c'était leur dernière goutte de carburant qu'ils utilisaient hier et qu'il fallait qu'on leur donne de l'argent. À Kananga, Greg 7 m'a dit « Oh, nous n'avons pas du ciment. Nous avons 20 000 sacs de ciment en Angola. Nous sommes en train de faire venir ce ciment-là par route. » En passant par Kalambambouji. C'est avéré pas tout à fait exact. Et puis c'était déjà trop tard. Je crois que le magistrat suprême de ce pays a pris la décision, dans le cadre de Tchilegelou, de résilier le contrat qui nous liait à CREC 7. Ça fait déjà 3-4 jours, ils ont reçu la lettre. On leur retire tout ce qu'ils avaient dans le cadre de Tchilegelou. Et nous allons trouver une autre entreprise pour prendre les choses en main. C'est vous dire que le travail avance trop lentement. Mais en dehors du fait que CREC 7 n'est pas à la hauteur, il y a quand même un grand problème avec tous les travaux qui se font dans le Grand Kasaï. En saison sèche, on ne le voit pas. Mais en saison de pluie, vous constatez que beaucoup d'entrepreneurs sont en train de frôler la rupture des stocks, soit en ciment, soit en mazout. Par exemple, il y a des routes ici en Mbujimayi qui sont prêtes à recevoir une monocouche. Mais nous n'avons pas le bitume. Pourquoi? Parce que le transport n'est pas assuré. SNCC n'assure pas. SNCC a des gros problèmes. C'est pour cela que dans le rapport, je vais demander à la hiérarchie pour qu'on s'approche de la SNCC, qu'on voie qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on les aide à être capable d'assurer ne fût-ce qu'une livraison par semaine, parce qu'un train marchandise par semaine jusque Kananga.
Concrètement, qu'est-ce qui est déjà fait et qu'est-ce qui reste à faire?
beaucoup. Par exemple, lorsque nous faisons le taux de réalisation Tilegelou pour la ville de Mbujimaï, nous sommes à 44% du projet. À Kananga, on avoisine 25%. À Moneditou, on est en dessous de 25%. Sur 5000, on n'a fait que 600. S'ils étaient arrivés même à 1000 mètres, ce serait un cinquième, ce serait 20%. Mais ils ne sont pas à 20%, c'est en dessous de 20%.
Monsieur de Pesseyar, comment réagissez-vous par rapport aux allégations de détournement des fonds par les entreprises qui réhabilitent les routes au Kasaï oriental?
C'est une très bonne question, madame. Combien de fois vous avez vu dans les réseaux sociaux une information qu'on affirme et puis on s'était parce qu'il n'y a rien, on n'a rien fait. Chez nous, à l'OVD, nous ne gérons pas les fonds. Les fonds passent du ministère des Finances directement sur le compte de l'entrepreneur.
Monsieur Martin, je peux m'embarquer.
Voilà comment se referme cette édition du journal. Fidèles auditeurs, nous vous disons sincèrement merci pour votre fidélité à Radio Okapi, tout en rappelant que ce journal a été préparé par Alain Irung et l'ensemble de toute la rédaction. Dieudonné Nyangassa a assuré la prise de son et la mise en onde, et Billy Ivan Lutumba vous l'a présenté. Continuez à vous informer sur toutes nos plateformes numériques.